Jean-Philippe Béja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et au CERI Sciences Po. Vous connaissez très bien, hein, la situation de Hong Kong. Alors, les manifestants hongkongais redoublent d'inventivité dans leur manière de protester afin de maintenir la pression sur l'exécutif après l'arrestation de plusieurs d'entre eux. Ils ciblent désormais la Bank of China. Ils veulent faire pression en retirant collectivement des fonds de l'établissement. On l'entendait ce matin par la voix de notre correspondante sur place, Florence de Changy. Certains ont déjà commencé à prendre leur argent de la banque. De gros comptes ont été fermés et de grosses sommes ont notamment été envoyées vers Singapour. Alors Jean-Philippe Béja, pensez-vous que ce mouvement va se poursuivre et peut avoir de l'ampleur?
Bon, écoutez, le mouvement de retrait de fonds, c'est quelque chose qui est surtout symbolique, hein, qui montre le manque de confiance des Hongkongais dans la Chine. C'est une forme de protestation. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est que ce mouvement est en train de durer de plus en plus longtemps, alors que le pouvoir attendait effectivement qu'il après le 1er juillet. Or, il y a toutes sortes de formes d'actions qui ont été inventées. Alors, bien sûr, il y a ces retraits de la banque, mais il y a aussi tous les lanonnois qui ont fleuri dans tout le territoire, c'est-à-dire c'est des post-it dans lesquels les gens affichent leurs revendications, alors qu'autrefois, on en trouvait seulement au centre à Hanoï pendant le mouvement des parapluies en 2014. Aujourd'hui, on en trouve absolument partout. C'est-à-dire que les militants qui se battent mais qui en fait expriment la volonté du changement, la volonté de changement démocratique, sont allés un peu dans tous les quartiers pour essayer de mobiliser l'ensemble de la population. C'est un peu le résultat de cette énorme manifestation qui avait mobilisé un tiers de la population de Hong Kong, et aujourd'hui, bien ça se poursuit malgré les espoirs du gouvernement.
Et malgré donc les annonces aussi hein, de l'exécutif Carrie Lam qui a annoncé quand même que ce projet était mort, les contestataires ont pourtant promis de nouvelles manifestations. On en parlait hein, demain, une grande manifestation est prévue. Mais ça veut dire quoi du coup tout ça, cet engagement des manifestants?
Si vous voulez, ça veut dire que les gens après le mouvement de l'échec du mouvement des parapluies en 2014. Les autorités ont cru que tout était fini, qu'on était tranquille et qu'on pouvait avancer dans la mise en œuvre de la politique que veut Pékin. En réalité, aujourd'hui, ce que cherchent à montrer les manifestants, qui, rappelons-le, représentaient le tiers de la population de Hong Kong, c'est que on ne s'arrêtera pas là. Ils ont dit, vous savez, le projet est mort. Mais mort, c'est pas un concept juridique. Il demande aussi une commission d'enquête sur les violences policières, et ça, elle n'en parle pas, elle demande la démission au moins de Carrie Lam ou alors de certains responsables. L'idée, c'est que seul un régime véritablement démocratique, avec un suffrage universel direct, permettra d'avoir une solution satisfaisante. Et je crois que ce mouvement qui est en train de se poursuivre, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs années. C'est l'affirmation de l'identité de Hong Kong, c'est le refus de la soumission au Parti communiste chinois et à ses agents au sein du territoire. Donc c'est quelque chose qui est parti pour durer. Alors évidemment, on ne sait pas combien de temps ça durera, mais disons qu'aujourd'hui, en agissant dans les quartiers, en agissant de manière extrêmement créative, ils ont les principaux militants de ce monde qui a toujours prendre le gouvernement à contre-pied. Alors, est-ce que ça va pouvoir continuer longtemps? C'est difficile à dire. Rappelons-nous, aujourd'hui, nous sommes au deuxième anniversaire de la mort de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, en prison. Le gouvernement chinois n'est pas un gouvernement qui est prêt à faire de compromis. Donc ça va être un combat assez complexe.
Et on en parlait, hein, les manifestants sont assez déterminés, mais ils sont aussi assez déprimés hein, par la situation. On l'a vu, il y a eu plusieurs cas de suicide chez les protestataires à Hong Kong. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette noirceur, Jean-Philippe Béja?
Bah, écoutez, justement, c'est le fait que devant Pékin, il est extrêmement difficile d'obtenir quoi que ce soit. Alors malgré le précédent d'une proportion si importante de la population, le gouvernement n'a toujours pas reculé. Alors évidemment, c'est pas seulement la proposition de loi qui est en question. C'est véritablement la possibilité pour Hong Kong de continuer à être Hong Kong. Or, le gouvernement chinois et le gouvernement de Hong Kong se refusent à reconnaître cette revendication essentielle qui est une revendication, au fond, de toutes les revendications sociales se cristallisent dans cette revendication politique. Or, ce qui semble à l'ensemble des manifestants, justement, il est extrêmement difficile d'obtenir satisfaction pour un véritable suffrage universel, car Pékin s'y refuse. Donc c'est, dans une certaine mesure, une telle mobilisation qui a si peu de résultats concrets, ça conduit les gens à une forme de dépression. Alors maintenant, bon, il y a eu 4 suicides, c'est effectivement extrêmement regrettable et très grave, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de la population de Hong Kong est extrêmement déprimée. Au contraire, ces manifestations ont montré une forme d'unité, j'allais dire unité nationale, pardon, pas d'unité nationale, mais d'unité de l'ensemble de la population pour un but commun, ce qui, d'un autre côté, est tout le contraire de la dépression. Et ce qui explique que le mouvement dure si longtemps aussi.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la suite, Jean-Philippe Béja? Qu'est-ce que Pékin pourrait faire? Qu'est-ce que l'exécutif à Hong Kong pourrait faire?
Alors, l'exécutif n'arrête pas de dire qu'il va reconnecter avec la jeunesse, mais ça marche pas du tout. Ils le font d'une manière extrêmement arrogante. Alors, il commence à y avoir un peu de tirage à l'intérieur des groupes pro-Pékin. Quant à Pékin, il donne encore quelques temps à Carrie Lam pour que les choses se tassent. Il joue la montre, mais si ça continue pendant très longtemps, il risque d'y avoir une réaction plus forte et l'exigence d'avoir peut-être une répression plus forte, etc. Mais je crois qu'ils jouent la montre. Quant aux manifestants, ils ont l'intelligence de rester extrêmement fermes, mais en même temps, il n'y a pas eu de violence véritable, quoi qu'on en parle. Donc on est dans une situation d'impasse actuellement. Et très franchement, tant que ce mouvement dure, c'est très difficile de voir Pékin. De voir ce que va faire Pékin. Mais en même temps, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait à Tiananmen il y a 30 ans, envoyer l'armée populaire de libération. Donc, c'est très difficile pour Xi Jinping, c'est très difficile pour Pékin et pour le gouvernement de Hong Kong. Alors, est-ce que la solution, évidemment, serait aussi toujours de changer de candidat et de se débarrasser de Carrie Lam pour donner satisfaction aux manifestants. Mais évidemment, ça, Pékin n'a pas très envie, car ce serait céder sous la pression de la rue.
Alors, vous parliez tout à l'heure de ce mouvement des parapluies, donc qui s'est terminé sur un échec finalement. Est-ce que les manifestants de ce mouvement sont les mêmes aujourd'hui? Est-ce que ce sont eux qui retentent peut-être?
Encore plus vaste. Les manifestants du mouvement des parapluies sont à l'intérieur de ce mouvement, mais c'est beaucoup plus vaste. On parle beaucoup des jeunes, mais quand vous avez 2 millions de personnes dans la rue, il n'y a pas que les jeunes, il y a toutes les générations. Donc, ce qui se montre ici, c'est l'unité de la population. Les militants du mouvement des parapluies ont été très... Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'ensemble des quartiers, c'est une réaction, c'est ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire après la fin du mouvement des parapluies. L'idée, c'est que ce mouvement se transforme et devienne une véritable force politique avec laquelle il faudra compter. Alors rappelons, il y a des élections au mois de septembre, des élections locales, et des élections législatives l'année prochaine. Les dirigeants de ce mouvement ont décidé déjà qu'il faudra se présenter, etc., et essayer, à travers aussi les institutions, de pouvoir changer la situation. Un certain nombre de membres des groupes pro-Pékin a aussi dit qu'il faudrait peut-être reparler de la réforme du système politique. Donc il y a, si vous voulez, la durée même et la force de ce mouvement contraint l'ensemble des forces politiques à revoir un peu leur copie.
Merci Jean-Philippe Béja. Évidemment, on suivra avec attention cette situation à Hong Kong, avec notamment cette nouvelle manifestation prévue donc demain. Jean-Philippe Béja était donc notre invité à la mi-journée sur RFI. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries Sciences Po RFI. Il est 13h21 à Paris.